Qu'est-ce que la communication subliminale? On l'appelle également aujourd'hui communication infraliminaire.
Il est possible que l'homme disparaisse et continue à faire des sottises, mais il faut déjà dès maintenant se préoccuper d'un relais possible.
Bonjour et bienvenue dans votre émission scientifique mensuelle « Les savants de Marseille ». Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un problème de santé publique, le cancer. Le cancer représente 30% de la mortalité en France de nos jours, ce qui correspond à 150 000 décès par an. Mot qui fait peur, c'est surtout la réalité scientifique que nous allons développer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un cancer d'un point de vue biologique? Quelles sont les thérapies existantes? Et quelles sont les dernières avancées de la recherche?
Qu'est-ce qu'un cancer?
Un cancer, c'est une maladie. Je ne sais pas, une maladie.
À mon avis, c'est une sorte d'infection qui peut se propager à certains membres du corps.
Votre question me désarçonne, mais il me semble qu'un cancer, c'est une dégénérescence des cellules.
Le cancer, c'est une maladie qui existe depuis très longtemps, qui peut se manifester de plusieurs formes. Il existe le cancer de la peau, le cancer de beaucoup d'organes, et il consiste à envahir des cellules saines. Voilà.
Un cancer, c'est des cellules qui sont infectées, qui infectent les autres, et ça se propage aux autres cellules. Enfin, c'est une infection, je crois.
Un cancer, c'est le nom d'une maladie qui est en général héréditaire, pas toujours.
Maladie cellulaire, dégénérescence des cellules et contagion d'une cellule à l'autre, qui peut devenir généralisée ou qui peut rester localisée.
Et comment un cancer se déclenche, à votre avis?
Je ne sais pas. Je crois que ça commence avec des cellules qui sont endommagées.
Avec les premières cellules infectées, et alors là, je sais pas, il y a des facteurs de, enfin, comme la cigarette ou...
Par l'apparition de cellules de tumeurs à l'intérieur du corps, à différents endroits, par des métastases.
Aucune idée, il y a quelques facteurs. On connaît des facteurs déclenchants, respirer le plomb des échappements de voiture, fumer des cigarettes, mais sur le mécanisme précis, je sais pas.
Alors aujourd'hui, pour traiter de ce sujet, donc le cancer, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Laetitia Dahan-Alcaraz, qui est chef de clinique en oncologie digestive au CHU de la Timone. Bonjour.
Bonjour.
Et Stéphane Honoré, pharmacien hospitalier au CHU de la Timone également, qui est de plus enseignant-chercheur à la faculté de pharmacie de la Timone.
Bonjour.
Bonjour. Et comme d'habitude, notre doctorant, qui aujourd'hui est Amine Sadok, qui est doctorant en cancérologie.
Bonjour.
Bonjour. Alors, on l'a vu au travers du micro-trottoir, tout le monde semble connaître le mot de cancer, mais finalement, on a du mal à mettre une réalité derrière. Donc, qu'est-ce qu'un cancer?
On a beaucoup entendu les gens dire qu'il s'agissait d'une infection. Je crois qu'il faut enlever ce mot qui sous-entend la contagion. Ce n'est pas contagieux, ce n'est pas une infection. C'est effectivement la dégénérescence d'une cellule qui se multiplie de façon anormale et qui entraîne la formation de tumeurs qui peuvent rester locales, effectivement, ou se généraliser.
Donc la dégénérescence, plus précisément, enfin, si vous pouvez nous simplifier le terme.
Dégénérescence ou alors acquisition de mutations successives qui vont perturber la capacité de la cellule à répondre aux signaux de l'organisme, et donc la cellule va proliférer de manière anarchique, indépendamment. De manière indépendante.
D'accord, elle prolifère. Donc
elle prolifère.
Au début, c'est localisé.
Au début, on a une cellule unique qui acquiert des mutations et qui prolifère, qui va former une tumeur.
Mm-hmm.
Et cette tumeur pourra rester localisée, comme l'a dit Laetitia, ou alors métastaser et envahir plusieurs autres organes dans l'organisme.
Donc effectivement, on associe souvent au mot cancer le mot métastase. Donc c'est une deuxième phase, en fait, c'est lorsque ça contamine...
Voilà, c'est ça, c'est une deuxième phase. Donc au départ, on a une tumeur dans un organe cible. Et puis, par des phénomènes un petit peu complexes, une cellule peut migrer de cet organe et aller dans un autre organe et développer d'autres tumeurs. Et c'est ce qu'on appelle les métastases.
Et donc, dans ces cas-là, est-ce qu'on développe d'autres cancers ou c'est le même cancer
le même
qui
cancer.
Se répand et
C'est le même cancer, et qui donc... développe des clones dans des organes à distance.
D'accord. Quand on parle de cancer généralisé, par exemple, hein, qu'est-ce que
généralisé, ça représente ? Généralisé, c'est un terme un petit peu vulgarisé, si vous voulez. Ça veut dire qu'on a une tumeur qui s'est propagée dans plusieurs organes dans le corps.
D'accord. Mais c'était toujours le cancer de quelque chose à la base. Hein.
Au départ, oui.
D'accord. Et quels sont, enfin, justement, qu'est-ce qui peut être touché par un cancer ? Tout, seulement certains organes
Tous les organes peuvent être atteints.
C'est-à-dire, enfin, quels sont les cancers les plus courants, malheureusement, mais...
Les plus courants, vous avez certainement le cancer du poumon et le cancer du côlon. Donc Laetitia pourra parler plus en détail du cancer du côlon, puisque c'est sa spécialité, le cancer du sein également. Effectivement, tous les organes peuvent être atteints, mais il y a quand même, selon les localisations tumorales, des sites métastatiques préférentiels, je pense.
Donc des sites métastatiques, c'est-à-dire là où ça se répand.
Voilà, des organes qui vont pouvoir développer pouvoir accueillir en fait les cellules tumorales qui se sont disséminées dans l'organisme.
D'accord.
Et en termes de chiffres, en France, là actuellement, quels sont les cancers les plus fréquents et
les trois cancers les plus fréquents, c'est le sein, le poumon et le côlon.
Et quelle est c'est une question d'un auditeur. La part de l'hérédité dans un cancer, en fait.
Il y a des facteurs de prédisposition génétique, mais le cancer n'est pas héréditaire, comme on l'a entendu. Hein. Il y a des familles qui développent principalement des cancers. Il y a des familles de cancer du sein et des familles de cancer du côlon, mais les cas les plus fréquents, sont des cas sporadiques.
Donc c'est-à-dire des cas
isolés.
Isolés, d'accord. Mais quand vous parlez vous parlez d'un facteur génétique.
De prédisposition
génétique, d'accord. Donc il y a une différence à faire avec
l'hérédité.
Prédisposition
ne veut pas dire que vous l'aurez forcément.
Mm-hmm. Quand on dit héréditaire, on sous-entend que si votre père ou votre mère l'a eu, vous l'avez forcément, ce qui n'est pas du tout le cas.
D'accord, très bien. Et, oui, Amine.
Oui, sinon, je voulais savoir, en fait, dans le cas de... C'est-à-dire que pour un facteur, les facteurs déclenchants, on entend plus ou moins actuellement tout et n'importe quoi. Il y a différentes études qui sortent tous les jours sur les facteurs capables de déclencher. Qu'en est-il vraiment, en fait ? Est-ce qu'il y a vraiment un classement à établir ? Est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur ce point de vue ?
Disons que le plus connu à l'heure actuelle, c'est quand même le tabac, qui est responsable de pratiquement 90 à 95% des cancers du poumon. C'est aussi une cause très importante dans les maladies cardiovasculaires.
Donc c'est surtout le cancer des poumons.
Surtout le cancer des poumons, mais ça touche également les cancers de la bouche, du pharynx, du larynx, du pancréas et de la vessie.
Mmh. Et est-ce qu'en termes de statistiques, quelqu'un qui fume, est-ce qu'il y a une durée de consommation de tabac qui devient, pour le futur patient, c'est indéniable, il va avoir un cancer à tous les coups.
Non, on ne peut pas dire ça comme ça. Hein.
Donc c'est en termes de probabilité, c'est une très grande probabilité.
C'est une probabilité,
oui.
Ok. Et plus on fume, plus cette probabilité est élevée. Plus on fume jeune, est-ce que c'est plus cette
c'est
probabilité
en fait,
est élevée comment...
Il semblerait dans les études que ce soit la durée pendant laquelle on fume qui soit plus importante que le nombre de cigarettes qu'on fume.
D'accord, on a entendu aussi, c'est souvent l'âge auquel on commence à fumer.
L'âge auquel on commence également.
C'est des choses qui...
Il ne faut pas commencer de toute façon.
Effectivement, c'est le meilleur moyen d'éviter d'avoir cette probabilité au plus bas. Voilà. Et encore, avec le tabagisme passif, ce n'est pas sûr. Et au niveau du cancer du sein aussi, il y a plusieurs, facteurs qui sont identifiés, non ? Au-delà justement de ces facteurs génétiques
Disons que pour le cancer du sein, il y a des facteurs, effectivement, comme une femme qui n'a pas d'enfant est susceptible de, en général, avoir un peu plus de risque d'avoir un cancer. Des femmes qui seraient réglées très tôt ou alors qui seraient ménopausées très tard. L'alcool également. Et il y a, comme on disait tout à l'heure, des formes génétiques dans 5% à peu près des cancers.
Ils sont en majorité, entre guillemets, hormonodépendants, ces cancers ou...
Alors, les cancers du sein et les cancers de la prostate, chez la femme et chez l'homme respectivement, sont effectivement des cancers qui peuvent être hormonodépendants et qui peuvent, le cas échéant, devenir hormonorésistants.
Donc, vous pouvez un peu nous éclairer peut-être sur ces termes hormonodépendants, hormonorésistants ?
Ça veut dire que des facteurs hormonaux interviennent dans le développement du cancer. Hein. Voilà. Ce qu'il faut retenir quand même dans tout ça, c'est qu'il y a une, ça se développe, c'est une conjonction de plusieurs facteurs qui entraîne le déclenchement du cancer. C'est pas un facteur qui donne un cancer.
Mmh. Bien évidemment, c'est une question d'environnement en fait dans lequel on est qui.
D'ailleurs, dans le cadre de la prise en charge thérapeutique des traitements des cancers hormonodépendants, on utilisera plutôt un traitement hormonal anti-hormonal, des œstrogènes, enfin dans le cas du cancer de la prostate par exemple, des œstrogènes des anti-androgènes. Plutôt que des cytotoxiques classiques.
Pour nos auditeurs, en fait, que pour les femmes, c'est deux hormones prépondérantes qui sont l'œstrogène et la progestérone, et que pour les hommes, c'est surtout la testostérone qui est
utilisée.
Pour les cancers hormonodépendants, c'est plutôt un dérèglement, par exemple, durant le cycle ou durant la vie du taux d'œstrogène et de progestérone qui pourrait donc être à l'origine d'un cancer hormonodépendant.
D'accord. Et ça vient un peu sur les questions de dépistage, en fait. Comment est-ce qu'on peut un peu se prévenir? Est-ce qu'on peut être dépisté?
Puisqu'on est en train de parler des cancers hormonodépendants, en ce qui concerne le cancer du sein, c'est vrai qu'il est rare avant 35 ans. Il est beaucoup plus fréquent, et pour les trois quarts des cas, après 50 ans. Et il y a maintenant des campagnes de dépistage pour les femmes de 50 à 74 ans, avec un dépistage tous les deux ans en France. Mm-hmm. Et donc, ça sera, je pense...
C'est peut-être le cancer sur lequel on a le plus accès la prévention, non? Est-ce que pour les autres, il y a aussi...
Pas uniquement.
Il y a des campagnes de dépistage pour d'autres cancers. Bon, il y a évidemment le cancer du sein, ça c'est clair. Il y a aussi des campagnes de dépistage pour le cancer du côlon qui ont été mises en place dans certains départements, dans 20 départements en France, en particulier les Bouches-du-Rhône. Voilà, donc c'est un dépistage par l'hémoculte qui est un test facile. Après, il faudra, valider ce test pour éventuellement étendre le dépistage à la France entière. Et puis, il y a le dépistage du mélanome. Il faut aller montrer sa peau régulièrement à son dermatologue. Donc, il n'y a pas que le cancer du sein qui est dépisté.
Et justement, est-ce que, par exemple, il y a un certain âge à partir duquel on doit se faire, entre guillemets, dépister ou on doit se...
Ça dépend du cancer. Par exemple, le dépistage...
Quand on ne l'a pas, en fait, quand on ne sait pas, à titre préventif.
Ça dépend du cancer, c'est ce que je vous disais. Le cancer du col de l'utérus, par exemple, qui est un cancer qui survient chez la femme jeune, doit être dépisté très tôt. C'est pour ça que toutes les femmes, en âge de procréer, dès 18 ans, ont un frottis annuel. C'est pour dépister le cancer du col. Mmh. En revanche, ça ne sert à rien d'aller dépister, sauf cas familiaux particuliers, un cancer du côlon à 18 ans. C'est rarissime, sauf dans les familles de cancer du côlon. Donc ça dépend un petit peu du cancer. L'âge de dépistage dépend du cancer concerné.
Est-ce que, par exemple, une petite question qui concerne le cancer du sein, est-ce qu'il est vraiment exclusif des femmes, en fait? Est-ce qu'il existe des cas de cancer du sein pour les hommes?
Il existe des cas très rares de cancer du sein chez l'homme.
Et juste une petite question, on parle souvent du cancer comme un mal du 21e siècle, mais est-ce que vraiment c'est récent, ou est-ce que finalement il y a toujours eu des cancers, mais sous d'autres noms ou sous...
Non, je pense que le cancer, c'est quelque chose qui est arrivé avec l'humanité, même avant l'humanité, puisque les animaux sont aussi capables de développer des cancers. Mmh. C'est une maladie ancestrale. Ce qu'on peut noter, c'est peut-être une augmentation de la fréquence dans les pays industrialisés, probablement liée à notre mode de vie moderne, mais ou alors aussi également à la capacité qu'on a à les détecter plus facilement.
Mmh. Et peut-être aussi, tout simplement, du fait qu'on ne meurt pas moins d'autres choses.
Et l'allongement, effectivement, l'allongement de la vie est favorable à cette augmentation, oui.
Et justement, par rapport à ça, en fait, est-ce que là, les études qui sortent nous mettent un peu en panique? On entend que tout est cancéreux, tout est cancérigène. Est-ce que, par exemple, l'aspartame ou le soja, ou est-ce qu'on doit vraiment s'en méfier, ou c'est vraiment à prendre au second degré? Qu'est-ce que vous en pensez?
Non. Il faut toujours avoir une notion, un comportement de prudence par rapport à ce qu'on mange, mais il n'y a pas vraiment d'études.
C'est-à-dire, dans quel sens? Est-ce que, par exemple, vraiment manger OGM, par exemple, c'est juste une petite parenthèse.
Parler d'actualité.
C'est dans l'actualité, exactement. Est-ce que, par exemple, c'est vraiment une cause un risque énorme vis-à-vis du cancer?
Non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. De toute façon, je pense qu'à l'heure actuelle, en ce qui concerne les OGM, il n'y a pas de démonstration scientifique de, que ce soit de qu'il cause le cancer ou qu'il protège, d'ailleurs, parce que j'ai pu lire les deux aspects. Je crois qu'il n'y a pas d'études valables et on ne peut pas se prononcer à l'heure actuelle sur l'implication des OGM dans les cancers.
Mais comment est-ce que finalement, enfin, c'est souvent des magazines ou des médias, enfin, comment est-ce qu'ils peuvent affirmer ça? Enfin, il y a des études derrière Qu'est-ce qui est
Il y a des... Je ne sais pas trop. Il doit y avoir des études, oui, mais est-ce qu'elles reposent sur des faits réels, scientifiques, statistiquement démontrés, etc. Ou est-ce que c'est juste des cas particuliers qu'on relate? Voilà, il faut être très vigilant en science. On doit faire ça sur des études sur de nombreux cas, faire des études statistiques pour voir si ce n'est pas du hasard, etc. Donc, il faut être très vigilant sur ce genre d'informations.
Donc, si on résume, en fait, le premier cas, mais vraiment, dont on est sûr qu'il est vraiment, probabilistiquement parlant, très cancéreux, c'est le tabac.
Tout à fait. Déjà. Le tabac. Bon, il y a d'autres cas, hein. Enfin d'autres, on avait mentionné une époque...
Là, c'est démontré, donc.
Là, c'est quand même démontré, oui, je pense que c'est quand même démontré depuis un certain temps.
Scientifiquement, vraiment, le tabac, c'est reconnu. Hein.
C'est reconnu. La téléphonie, on en avait parlé à un moment donné. Je crois qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune étude qui démontre l'implication de la téléphonie portable sur l'apparition des tumeurs cérébrales. Voilà.
D'accord, donc c'était un peu le même type d'étude que les OGM, où effectivement on a entendu l'aspartame, le soja à une époque. C'est finalement enfin, des études qui portent peut-être sur très peu de cas.
Le problème, c'est qu'il y a souvent des contradictions. Vous allez avoir une étude qui va sortir, qui va dire quelque chose, et puis un an plus tard, une autre étude qui est faite, qui est probablement aussi bien faite, et qui va dire l'inverse. Donc on ne sait pas trop à l'heure actuelle.
Okay. Et nous avons aussi surtout entendu parler d'un cancer qui est le mélanome, donc c'est un cancer de la peau, et qui serait apparemment, donc pas apparemment, donc de manière sûre, déclenché par l'exposition au soleil. Est-ce qu'il y a une certaine prédisposition à ce cancer, ou est-ce que c'est vraiment... Comment on peut s'en protéger? Est-ce qu'il existe vraiment des...
Ce qui est sûr, c'est que l'exposition solaire répétée et importante avec des coups de soleil favorise l'apparition des mélanomes. Hein. Surtout l'exposition solaire dans la petite enfance. Comment s'en protéger? Par les crèmes solaires. Hein.
Donc on a vraiment la notion de capital soleil qu'on doit protéger et qu'on doit...
Voilà, puis il y a des phototypes, je dirais.
Des phototypes des peaux des
types de peaux, si vous voulez, qui sont prédisposés, enfin pas prédisposés, mais qui sont plus susceptibles de développer un mélanome. Hein, ce qu'on appelle le phototype clair, quoi, hein, les gens qui sont blonds aux yeux bleus, avec la peau très pâle.
Et puis justement, dans ce contexte-là, notamment avec le soleil, c'est vrai que le soleil et mélanome, ça ne fait pas bon ménage. Mais par contre, j'avais lu une étude qui avait été faite au Danemark, comme quoi l'exposition solaire était plutôt bénéfique contre les cancers, enfin les lymphomes notamment.
Dû
à la synthèse de vitamine D par le soleil.
Juste à préciser, les lymphomes, c'est des cancers du système immunitaire.
De sanguin.
Oui, sanguin, ok.
Mm-hmm. Des expositions au soleil protégées, en fait, sont bénéfiques.
De toute façon, il faut toujours être. Il faut toujours avoir une exposition tout à fait mesurée, limitée quand même. Hein. Mm-hmm. Il ne faut pas attraper de coups de soleil, il ne faut pas s'exposer aux heures les plus chaudes, mais voir le soleil, ça fait. Pas de mal non plus.
Bien évidemment.
Tout est dans la modération.
Tout est dans la modération.
Mm-hmm. Bien sûr. Donc, on va maintenant écouter une petite anecdote qui porte sur la découverte de l'hygiène. Et on reviendra dans une deuxième partie du débat, parler plus précisément des thérapies notamment et des évolutions dans ce domaine-là pour traiter les cancers.
Bonjour. Alors, puisqu'aujourd'hui, au Savant de Marseille, la médecine est à l'honneur, les rédacteurs de l'anecdote d'Histoire des sciences vous proposent de revenir sur la découverte de l'hygiène. Nous allons voir comment il a fallu attendre le milieu du 19e siècle pour qu'un médecin allemand découvre, un peu tard il est vrai, l'utilité du lavage des mains dans la bonne pratique de la médecine. En 1846, Ignaz Philipp Semmelweis devient à 28 ans médecin assistant au premier service d'obstétrique à l'hôpital général de Vienne. C'est là qu'il commence à étudier les origines de la fièvre puerpérale qui fait des ravages dans son service. Cette fièvre tue rapidement après l'accouchement, plus d'une mère et d'un nourrisson accouché sur 10. Cette mortalité énorme surprend tout le monde. En effet, dans l'autre service d'obstétrique, qui est dans le même hôpital pourtant, et qui utilise les mêmes techniques, seulement 2% des mères meurent de fièvre puerpérale. Dans la ville, tout le monde est au courant, si bien que beaucoup de femmes préfèrent accoucher dans la rue plutôt que d'entrer dans la maternité où travaille Semmelweis. Celui-ci alors tente d'expliquer les mauvais résultats de son service, et il émet plusieurs hypothèses. Il compare d'abord les techniques d'accouchement, qui sont les mêmes, il compare les régimes alimentaires dans les deux services, sans y voir de différence, et surtout il dissèque tous les cadavres des femmes mortes de la fièvre, et ces cadavres présentent tous les mêmes symptômes. On sait maintenant que ces femmes mouraient de septicémie, c'est-à-dire une sorte d'infection généralisée. Pourtant rien n'y fait, Semmelweis n'arrive pas à expliquer la mortalité énorme de son service. La seule différence entre les deux maternités est le personnel médical. Le service de Semmelweis enseigne à des étudiants en médecine, tandis que dans l'autre, ce sont des sages-femmes qui sont formées. Semmelweis finira par tout comprendre, grâce à la mort accidentelle d'un de ses amis chirurgiens. C'étaient eux-mêmes, les médecins et les étudiants, qui étaient responsables de tous ces décès. Comment a-t-il compris ? C'est bien simple. Après s'être accidentellement coupé en disséquant un cadavre, son ami est mort, semble-t-il, de la maladie mystérieuse des femmes. Et l'autopsie du corps du chirurgien confirme cette hypothèse. Semmelweis comprend tout à coup. Dans l'autre service, on ne disséquait pas de cadavres et les femmes mouraient moins. C'était en fait lui et les autres médecins qui apportaient des substances de contamination sur leurs mains entre la salle d'autopsie et les patientes dans la salle d'accouchement. À l'époque, l'existence des microbes n'était encore pas soupçonnée, mais Semmelweis a eu l'intuition qu'une substance contaminante pouvait rester sur leurs mains et être vecteur de la transmission de la maladie. À partir de ce moment, il imposa au personnel médical le lavage des mains entre le travail d'autopsie et l'examen des patientes. Le taux de mortalité chuta alors de 12 à 2%, ce qui était le taux de mortalité moyen du second service d'obstétrique. Malgré un résultat aussi spectaculaire, Semmelweis restera longtemps muet sur cette découverte. Et les autres médecins rechigneront longtemps à reconnaître qu'ils pouvaient eux-mêmes être la cause d'infections mortelles, condamnant pour longtemps encore des milliers de jeunes mères à une mort tragique et inutile. Semmelweis a en réalité identifié pour la première fois une maladie nosocomiale, ces fameuses maladies qui s'attrapent en milieu hospitalier et qui font encore beaucoup parler d'elles aujourd'hui. Certaines études prétendent même que, sur les 750 000 maladies nosocomiales qui seraient contractées chaque année en France et qui feraient environ 4 000 morts par an, on pourrait en éviter un bon tiers, rien qu'en appliquant plus sévèrement des règles simples d'hygiène de base en milieu hospitalier.
Tant qu'elle fumait comme une pompière, et voilà qu'un jour, apprenant qu'une copine est morte d'un cancer, elle décide d'arrêter subitement. Elle achète une revue de santé, 1000 trucs pour cesser de fumer. Elle ne vide plus ses cendriers, compte ses mégots, revend ses briquets. Au début c'était pas facile, d'ailleurs la preuve c'est ce qu'elle disait. Elle disait comme ça, c'est pas facile, vous voyez c'est ce que je vous disais. Le plus dur c'est le geste qui reste, quand il fait plus ça te manque vraiment. Faut dire que c'est un très joli geste, qu'on aimerait faire encore longtemps. Depuis qu'elle a cessé de fumer, elle se croit sauvée du cancer, mais frôle chaque jour la crise de nerfs, alors elle suce pour compenser. Des bonbons sans sucre bien sûr, avec du naturel dedans, et respire de grands bols d'air pur, avec on sait pas trop quoi dedans. Au bout de 3 mois, coup de déprime, v'là qu'elle avait pris 10 kilos, l'a fallu qu'elle suive un régime seulement à base de produits bio. Pendant 10 jours, elle a eu la chiasse, elle gerbait après chaque repas, alors à force ce fut efficace, elle a bien fini par perdre du poids. Mais maintenant qu'elle y est arrivée, elle nous rendrait presque jaloux. Elle dit waouh, le plaisir que c'est de retrouver les odeurs et les goûts. D'avoir fait preuve de sa volonté, de sentir battre peinard son cœur. Ne plus tousser, moins s'essouffler, ne plus avoir Staline qui fait peur. Mais visiblement le plus grand pied de celui qui a cessé de fumer, son grand bonheur, son plaisir en or, c'est faire chier ceux qui fument encore.
Qu'est-ce que c'est le principal facteur responsable du cancer selon vous ?
Je pense pas qu'il y ait un facteur, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. On n'est pas sujet à avoir un cancer ou pas.
Le principal facteur, ça dépend quel type de cancer. Si c'est le cancer du poumon, c'est la pollution, la cigarette. Si c'est le cancer de la peau, c'est le soleil, ça dépend.
Oui, mais ça, c'est des probabilités. Je veux dire, c'est pas parce que tu fumes trop que tu auras un cancer plus qu'un autre. Il y a plein de gens qui fument pas, qui ont des cancers du poumon, et d'autres qui fument et qui n'auront jamais de cancer dans leur vie. Évidemment, on pense toujours fumer, cancer du poumon, boire, cancer du foie.
Bah, je crois que le principal cancer, c'est le cancer du poumon. Alors, c'est surtout la cigarette, mais il y a aussi beaucoup le cancer du sein. Alors là, il y a, je ne sais pas, fumer et prendre la pilule en même temps, peut-être, ou ce genre de choses.
Il y a plusieurs sources, il me semble, plusieurs facteurs qui sont responsables du cancer. Le tabagisme, le soleil.
Est-ce que vous pensez qu'on peut guérir définitivement du cancer ?
Oui.
De certains cancers, oui.
Je pense qu'il peut y avoir des rémissions de très long terme, mais je doute qu'on puisse guérir totalement du cancer.
Vous êtes au courant des dernières avancées dans la lutte contre le cancer ?
Pas du tout.
Non, pas du tout.
Non, pas du tout.
J'ai entendu certaines choses, mais bon, je ne suis pas 100% au courant. Je sais qu'il y a des traitements qui ont déjà beaucoup évolué.
Donc nous voilà de retour pour ce débat, cette discussion autour du cancer avec, je le rappelle, Laetitia Dahan Alcaraz et Stéphane Honoré, plus Amine Sadok qui m'aide à animer ce débat. Donc dans cette deuxième partie, on voudrait un peu plus parler et présenter les thérapies existantes, quelles sont les évolutions et notamment une question intéressante tout à l'heure dans le micro-trottoir qui était: est-ce qu'on guérit d'un cancer ?
Oui. On peut guérir d'un cancer.
Définitivement.
Définitivement. Oui.
Parce qu'on entend souvent que finalement, on n'est jamais complètement guéri, qu'il y a un risque de rechute de récidive qui est très élevé. Ou...
Quand on a fait un cancer, on est bien sûr un sujet plus à risque d'en refaire un, entre guillemets. Hein. C'est pour ça qu'on vous surveille toute votre vie finalement. Hein. Maintenant, des risques de récidive très élevés, ça dépend des cancers.
D'accord.
C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des cancers qui sont plus prédisposés
à récidiver
plus que d'autres ?
Oui.
D'accord. On refait le même cancer, on en refait un autre ? Comment ?
Les deux existent.
Les deux existent, d'accord. Alors maintenant, pour aborder le côté peut-être un peu plus positif, comment est-ce qu'on guérit d'un cancer ? Quelles sont les thérapies ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des avancées là, dans ce domaine ?
Il y a des progrès tous les jours. Il y a différentes techniques pour guérir d'un cancer. Hein. Il y a la chirurgie, il y a les traitements plus généraux comme la chimiothérapie, il y a d'autres traitements locaux que la chirurgie comme la radiothérapie. Il y a maintenant des nouvelles molécules qui apparaissent qu'on appelle les biothérapies ou les thérapies ciblées, hein, qui ciblent précisément un mécanisme, de dérégulation de la cellule cancéreuse. Donc il y a de nombreux traitements qui apparaissent et il y a beaucoup d'options thérapeutiques aujourd'hui.
Si on les reprend rapidement, une à une, toutes ces thérapies. Donc la chirurgie, ça consiste par exemple...
Enlever la tumeur.
Voilà, chose plus classique, ablation du sein.
Ablation du sein, on enlève une partie du côlon, une partie du foie.
Et ça dépend un peu de l'état d'évolution de la maladie ou le type du cancer aussi.
Ouais. Il y a des cancers qui ne s'opèrent pas, qui se traitent par la radiothérapie ou la chimiothérapie.
Et si vous pouviez nous éclaircir un peu la radiothérapie, au fait ?
La radiothérapie, c'est une irradiation qui détruit localement une tumeur.
Mm-hmm. Donc des rayons.
Voilà, des rayons. C'est ce qu'on appelle habituellement les rayons.
Mm-hmm. Et la chimiothérapie ? Parce que finalement, c'est ça qu'on entend peut-être le plus.
La chimiothérapie, on a plusieurs types. Ce qu'on appelle les chimiothérapies conventionnelles, qui sont des molécules qui vont cibler deux composants principaux dans la cellule tumorale, qui sont un, l'ADN, et deux, les microtubules qui, en fait, participent à la division cellulaire.
D'accord. Donc, des molécules qui vont agir sur l'ADN
directement, ou indirectement d'ailleurs, et sur un autre composant qu'on appelle les microtubules.
Et c'est spécifique de la cellule tumorale, la chimiothérapie ?
Tout le problème est là. C'est qu'on peut dire que non, ce n'est pas spécifique, ça peut atteindre toutes les cellules. Seulement, les cellules tumorales sont les cellules qui sont en prolifération dans l'organisme, et donc ce sont celles qui sont touchées en premier.
Mmh. Et au niveau, les deux grosses thérapies, on va dire, sont radiothérapie et chimiothérapie, est-ce qu'il y a une répartition
Ça dépend du cancer qu'on soigne. Hein. Il y a des cancers qui sont très radiosensibles et des cancers qui sont très chimiosensibles. Donc on met le traitement adapté.
D'accord. Et en termes de proportion, laquelle est la plus utilisée ? C'est à peu près...
Les deux, parfois en association.
Hein. D'ailleurs, d'accord. Ouais. Et d'ailleurs, pour continuer sur l'histoire des de la chimiothérapie, comme Laetitia l'a dit tout à l'heure, il y a maintenant, depuis un certain nombre d'années, le développement de nouvelles molécules dites thérapies ciblées qui vont pouvoir cibler spécifiquement certains mécanismes dérégulés dans la cellule tumorale et donc pouvoir inhiber la prolifération.
Donc ils sont plus spécifiques de la cellule tumorale, ceux-là ?
Ils sont plus spécifiques. Ceci dit, la spécificité n'est jamais parfaite. Mmh.
Et enfin, un des gros problèmes de ces thérapies, c'est qu'elles sont lourdes pour un patient. Elles ont beaucoup d'effets secondaires, non ?
Les effets secondaires sont bien contrôlés maintenant. On a de nombreuses molécules pour gérer les nausées, la baisse des globules blancs, etc., qui nous permettent d'éviter justement l'inconfort de la chimiothérapie.
Ça engendre quand même en général une grosse fatigue de la part des patients. Et...
Ce qui engendre une grosse fatigue, c'est plus le cancer que la chimiothérapie. Ce qu'il faut retenir, c'est que le but de la chimiothérapie, c'est justement d'améliorer l'état général des patients et d'améliorer cette fatigue.
D'accord, donc c'est vraiment le cancer qui procure tout, parce qu'on entend quand même assez...
Il ne faut pas dire que la chimiothérapie, c'est dénué d'effets secondaires.
Bien sûr.
Mais le but, c'est quand même, quand on fait la balance entre les deux, c'est quand même d'améliorer l'état général des
patients. Donc ça reste quand même un traitement lourd, mais très efficace, le plus efficace qui existe actuellement, donc ce n'est pas une question de...
Tout à fait.
Ouais, exactement. Donc sinon, on entend beaucoup parler aussi de la notion de thérapie génique, si vous pouvez un peu nous éclaircir un peu sur...
Disons qu'en thérapie génique, c'est encore en stade de recherche. Donc il y a quelques essais qui sont réalisés dans le domaine du cancer. Certains ont été encourageants, d'autres un peu décevants. C'est toujours en recherche.
De manière simple, qu'est-ce que c'est ?
Thérapie génique, c'est de pouvoir d'insérer en fait un gène dans une cellule pour restaurer une fonction qui n'existait pas ou donner une fonction particulière à une cellule.
C'est-à-dire pour contrôler un peu cette multiplication anarchique des cellules.
Tout à fait. Tout, le but étant toujours de diminuer la prolifération tumorale. Ou la réponse à la chimiothérapie. Avec la thérapie génique aussi, on a des essais qui visent à améliorer la réponse aux cytostatiques que l'on donne, aux cytotoxiques que l'on donne.
Donc à amplifier en fait les effets d'une chimio.
Tout à fait.
C'est-à-dire on en est où actuellement de la thérapie du cancer au niveau de l'évolution ? Est-ce qu'on a trouvé donc, de nouvelles cibles ou on est sur de bonnes voies ?
Des nouvelles cibles, on en a trouvées. D'ailleurs, ça fait depuis de nombreuses années que la recherche fondamentale met en évidence des régulations et des protéines dérégulées dans la cellule tumorale. Et donc, on a commencé à voir apparaître depuis 5-6 ans les premières molécules de thérapie ciblée. Là, actuellement, de nombreuses molécules sont en essai clinique.
C'est quoi cette notion de... Éclaircissez-nous un peu sur cette notion d'essai clinique, en fait. Parce qu'un médicament, avant de rentrer sur le marché, il doit passer par une série d'essais, c'est ça ?
Tout à fait. Donc, les industries pharmaceutiques développent des nouvelles molécules. Avant d'avoir l'autorisation de mise sur le marché, ce qu'on appelle l'AMM, il faut que la molécule ait montré son efficacité et, je dirais, une meilleure efficacité par rapport aussi à un traitement de référence. Parce que ça ne sert à rien de mettre un nouveau médicament sur le marché qui fait la même chose. Il faut que ça fasse mieux. Et donc, pour prouver que ces médicaments font mieux, il faut les tester chez les patients. Donc, les tester entre guillemets. Ils ne servent pas de cobayes. C'est des molécules qui ont déjà été testées chez l'animal. C'est des années derrière de recherche avant de les évaluer chez l'homme. Et les premiers essais qui sont faits, c'est sur les cellules. Quand on voit que ça marche sur des cellules de cancer du côlon, par exemple, on dit on va essayer cette nouvelle molécule chez l'homme qui a un cancer du côlon.
Chez l'animal d'abord.
Chez l'animal, puis chez l'homme.
Puis chez l'homme.
Donc sans risque pour les patients, en tout cas.
Pratiquement à l'heure actuelle, pratiquement sans risque.
Pas,
le risque zéro n'existe pas, mais pratiquement sans risque. Il y a une législation très très rigoureuse dans les essais cliniques, et vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment, à l'heure actuelle, sans risque.
Avant qu'un essai clinique ouvre, de toute façon, ça passe devant un comité d'éthique qui est très strict. Donc, s'il y a le moindre risque pour le patient et s'il n'y a pas, je dirais, entre guillemets, d'intérêt scientifique, l'essai ne peut pas démarrer.
Donc, la région PACA est quand même, et la ville de Marseille en particulier, assez poussée dans ce qui est recherche clinique entre donc, l'assistante publique des hôpitaux de Marseille, vous fait partie, et également l'Institut Paoli Calmette. Donc ça, c'est une partie, on a parlé de recherche clinique, mais il y a plus en amont également de la recherche plus fondamentale.
Les deux sont liés en réalité. Il y a des essais de recherche clinique qui sont conduits, je dirais, dans les services cliniques auprès des patients. Et puis, il y a la recherche fondamentale. Alors, ça se fait dans un sens ou dans l'autre. Parfois, c'est une découverte de laboratoire qui amène au développement d'un médicament, puis au développement d'un essai clinique. Et puis, parfois, c'est le contraire. On se rend compte qu'un médicament marche sur telle ou telle maladie. Et ensuite, on essaie d'expliquer les mécanismes. Donc, les deux sont intriquement étroitement liés.
Et qu'est-ce qu'on entend, justement, précisément, par recherche fondamentale ? Dans le terme fondamental, ça veut dire que c'est éloigné des patients ou c'est plutôt... Ça veut dire que c'est plus ciblé.
C'est un peu plus éloigné des patients, certes, mais toujours avec l'esprit en tête que c'est pour les patients qu'on fait cette recherche.
Donc, dans le terme fondamental, c'est vraiment
mécanistique. C'est mécanistique. Ou de trouver de nouveaux mécanismes, de nouvelles cibles de nouvelles façons de pouvoir appréhender la prise en charge de ces cellules tumorales, les contrôler, inhiber leur prolifération, inhiber d'autres fonctions comme la migration, l'angiogénèse tumorale, etc. Donc l'angiogénèse tumorale, c'est la capacité qu'a une tumeur à sécréter des facteurs qu'on appelle pro-angiogéniques qui vont activer les vaisseaux sanguins qui sont qui avoisinent la tumeur et qui vont permettre à la tumeur d'être irriguée par notre sang et d'avoir ainsi les nutriments et l'oxygène qui vont la faire pousser. Mmh. Donc cette angiogénèse tumorale est en fait une cible thérapeutique très importante d'avenir. Mmh.
Il y a déjà des médicaments qui sont sur le marché et qui ciblent l'angiogénèse.
Comme vous avez dit tout à l'heure, en fait, c'est vis-à-vis des essais cliniques, on passe absolument par des recherches fondamentales pour expliquer mécanistiquement par quoi passe l'action du médicament avant de passer éventuellement au modèle animal et après, ultimement.
On n'explique pas toujours le mécanisme, mais en tout cas, ça passe par des essais chez l'animal d'abord. Mmh. On n'a pas toujours compris pourquoi ça marche, mais quand on découvre que ça marche, ça passe chez l'animal avant de passer chez l'homme. Après, parfois, on explique a posteriori.
D'accord. Tout à fait. Mais de toute façon, surtout pour les thérapies ciblées à l'heure actuelle, il faut voir que l'identification des cibles provient de la recherche fondamentale.
Oui, c'est ce que je voulais dire. En fait, c'est absolument dépendant de la recherche fondamentale.
Donc, bien sûr. C'est tout dépendant de la recherche fondamentale. On ne peut pas designer un médicament comme ça sans savoir quelle est sa cible et quelle est l'implication de cette cible dans la cancérogénèse.
Donc là, enfin, on a beaucoup parlé de la guérison, enfin, en tout cas des thérapies associées au cancer. Mais enfin, c'est avant tout des êtres humains qui sont touchés. Donc, est-ce qu'il y a des prises en charge psychologiques qui sont mises en place ? Comment ça se passe? Parce que c'est dur d'apprendre à quelqu'un qu'il a un cancer. Quelles sont les précautions, entre guillemets, qui sont prises? Il y a un accompagnement ou...
Alors, l'annonce du diagnostic, c'est toujours un petit peu compliqué. Mm-hmm. Hein, et dans le plan cancer, justement, il y a un dispositif d'annonce qui a été mis en place où on souhaite que les patients soient accompagnés, en particulier au décours immédiat de l'annonce, pris en charge par une infirmière référente qui peut leur donner des coordonnées de la psychologue, de l'assistante sociale, parce qu'il y a tout un tas de problèmes qui se greffent sur l'annonce du cancer. Hein. Quand on a un emploi, est-ce qu'on va pouvoir continuer à travailler ? Mm-hmm. Tout ça, c'est très important. Et il faut justement que les patients soient pris en charge de ce côté-là.
Donc les patients ne sont plus pris en charge uniquement d'un point de vue médical, mais également d'un point de vue social, d'un point de vue psychologique.
Tout à fait.
Vous avez évoqué le plan cancer, ça consiste en quoi ? Enfin, c'est un plan national,
C'est un plan national, oui, mm-hmm. Tout à fait.
Qui a quoi comme objectif ?
Qui contient, il y en a plusieurs, 70 mesures au total, si je me souviens bien.
D'accord, on ne va peut-être pas toutes les citer, mais on va juste...
Le but, c'est de diminuer la mortalité due au cancer. Hein. C'est le but de ce plan, au départ.
Qu'est-ce que coûte finalement la recherche en cancer ? Quels sont les principaux financeurs ?
Les financeurs de la recherche sur le cancer, ils sont variés. Hein. Il y a des sources de financement variées, publiques, privées, associatives, de l'ARC, la Ligue. Mm-hmm. Puis il y a l'État, les universités.
Et c'est-à-dire, est-ce que ces dons-là sont répartis, entre guillemets, équitablement entre la recherche clinique et fondamentale, ou bien c'est surtout, par exemple, sachant que les laboratoires de recherche sont généralement incorporés donc, dans des structures universitaires, l'université qui s'occupe plutôt de financer la recherche fondamentale. Et la majorité des dons qui sont plutôt distribués du côté clinique, ou c'est une équitabilité parfaite ?
Non, là, je pense que la recherche clinique, à proprement parler, sur le développement des nouveaux médicaments, est en grande partie réalisée par l'industrie pharmaceutique qui développe leurs médicaments. Après, il y a de nombreux essais cliniques également qui sont développés par des sociétés savantes sur des stratégies thérapeutiques différentes pour améliorer la prise en charge sur des molécules qui existent déjà.
Et justement, sur ce point, en fait, je voulais savoir comment ça se passe. Est-ce que pour inclure un patient qui est malade dans une étude, comment ça se passe
lui propose.
Donc, on lui dit que c'est un médicament qui donne une meilleure chance et on essaye.
Ce n'est pas toujours des essais cliniques avec des nouveaux médicaments. Hein. C'est parfois un essai clinique qui peut comparer deux médicaments qui existent déjà, hein, qu'on utilise déjà dans cette maladie, mais pas forcément dans un ordre très bien établi. Donc, en général, on propose au patient l'essai clinique, on lui remet un consentement, hein, parce qu'il faut que le patient soit d'accord pour participer à un essai clinique, on lui remet un consentement qui explique tout. Hein, qui en général explique toute la maladie, des effets secondaires du potentiel traitement, etc. Et plus tard, lorsqu'il a eu le temps de rentrer chez lui, de lire son consentement, de lire l'information qu'on lui a donnée, d'en parler avec sa famille, il revient et il nous dit s'il est d'accord ou pas.
Donc il est très informé, il est tenu au courant de l'évolution de sa maladie.
Tout à fait.
Il y a eu des grandes évolutions dans ces dernières années, justement, sur le fait de demander vraiment l'avis aux patients. Je pense que, est-ce qu'au-delà des traitements, c'est pas là où il y a eu les plus grosses évolutions ces dernières années ?
Donc il y a beaucoup de communication avec le patient. Hein. En général, les patients sont informés de leur maladie. Ils nous posent des questions, on leur répond et on n'est pas là pour leur mentir. Mmh. Et puis il y a aussi une amélioration, je dirais, dans la coordination des soins. Hein. On essaie d'uniformiser les pratiques aussi, c'est très important ça. Où que vous soyez en France, vous soyez soigné de la même façon, de façon optimale. Hein. C'est pour ça qu'on écrit des recommandations pour la pratique clinique, qui doivent être suivies, qu'on demande que les dossiers des patients soient discutés de façon pluridisciplinaire, que ce ne soit pas soit le chirurgien dans son coin qui prend sa décision, soit l'oncologue dans son coin. Tout le monde se réunit autour du dossier du patient et discute de son traitement et du meilleur traitement à lui apporter.
D'accord. Donc, est-ce que finalement on guérit mieux maintenant du cancer ? Quels sont en termes de chiffres ? Est-ce que les proportions quand même ont tendance à être de plus en plus positives ou...
Oui.
Je pense que oui, on gagne, chaque année et chaque nouvelle découverte, on gagne des mois supplémentaires de survie pour la majorité des cancers.
C'est des progrès qui se font petit à petit. Hein. C'est bien sûr, c'est un travail de longue haleine, je dirais.
Et à pondérer, bien sûr, par l'évolution de l'impact du cancer, de toute façon.
Donc avant de vous remercier, j'aimerais juste citer deux adresses internet. Donc tout d'abord le site de l'Oncorep, qui est le réseau d'oncologie de la région PACA, et le site internet de l'Institut National du Cancer, donc l'INCa, à l'adresse www.e-cancer.fr. Merci à tous d'avoir participé à cette discussion et de nous avoir éclairé sur cette maladie. Et avant de vous quitter, on va retrouver la revue de presse et l'agenda.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Bonjour à tous et bienvenue dans vos casques à journaux, une revue de presse romantique en ce mois des amoureux, à commencer par La Recherche, qui nous livre des confidences sur le jeu de la séduction, avant de nous convaincre que la nature est un puissant fond dont les lois sont l'œuvre d'un plein impressionniste. Le tout sera saupoudré de poussière de comètes et de chantal cosmique. Pour oublier l'absence de neige sur les pistes cet hiver, la revue Pour la Science nous invite à découvrir toute la diversité cachée des flocons de neige. Pourtant connus depuis très longtemps, ces petits cristaux n'ont pas fini de nous révéler leurs secrets. Écoutez aussi l'histoire du serpent Pluton, dont la couleur de peau passe du jaune au rouge puis au vert en fonction de sa croissance. Enfin, Pour la Science vous emmènera chez les crocodiles qui hibernent quand l'été arrive. Le dossier Science et Avenir de février est consacré aux médecines alternatives. Homéopathie, acupuncture, phytothérapie, un panorama complet pour mieux vous y retrouver. Explorez ensuite les lacs et les neiges éternelles de Titan, gigantesque satellite de la planète Saturne. Les montagnes de cette lune géante sont en effet recouvertes d'épaisses couches de neige. On plongera enfin au cœur de la polémique sur les mystérieux geysers qui jaillissent sur Encelade, une autre lune de la planète aux anneaux. À la une de Science et Vie ce mois-ci, sommes-nous faits pour vivre dans notre monde ? Des chercheurs avancent que notre cerveau serait en fait adapté au monde préhistorique lorsque les traîneaux remplaçaient les TGV et quand les peintures rupestres servaient de SMS. Autre sujet abordé, le déclin des abeilles. Malgré la réduction des pesticides et tous les soins apportés par les apiculteurs, ces insectes voient leur population décliner depuis des années, des éléments de réponse dans ce numéro de Science et Vie. Enfin, à l'approche des élections et en attendant que la vraie campagne commence, certaines communes sont déjà passées à l'ère moderne en développant le vote électronique. Des chercheurs en informatique donnent leur point de vue.
Après un début d'année marqué par la mise en évidence du problème des mal logés, le mensuel Alternative Économique consacre la une de son numéro de février à la crise du logement. Et malgré la relance de la construction, le magazine présente une vision plutôt pessimiste, l'offre étant concentrée sur des logements trop chers par rapport à la demande. Toujours dans Alternative Économique, un dossier étonnant sur la pénibilité du travail, qui souligne que la France a aujourd'hui un des plus forts taux d'accidents du travail des pays développés. Explication du phénomène que le magazine qualifie de néo-taylorisme. Angelés Echo consacre pour sa part sa couverture à un dossier sur « Comment devenir un bon manager » et à une étude sur le vote des jeunes. À lire aussi dans Angelés Echo de février, les solutions trouvées par les compagnies d'assurance pour faire face aux catastrophes naturelles et un article sur la professionnalisation du commerce équitable. Pour bien comprendre les enjeux de 2007, le journal Le Monde sort comme chaque année un hors-série intitulé « Bilan du monde 2007 » qui, en plus d'une infographie sur l'économie des principaux pays, nous offre un décryptage des principaux défis de cette nouvelle année, énergie, environnement et conflit.
Bonne lecture à tous et au mois prochain pour de nouvelles aventures scientifiques.
Bonjour, ceci est l'agenda scientifique. Tout d'abord, un certain nombre de conférences sur Marseille.
C'est le domaine de la santé qui est en exergue en ce moment à l'Agora des Sciences, qui poursuit jusqu'au 31 mars son programme « À table, l'alimentation en Méditerranée ». En plus de l'exposition et des ateliers organisés les mercredis et samedis, deux conférences vous sont proposées.
Marie-Joseph Amiot-Carlin, directrice de recherche INRA, au laboratoire Nutrition humaine et lipides à la faculté de médecine de Marseille, vous propose une conférence intitulée « Alimentation méditerranéenne, une culture de la santé ». Certaines formes de maladies telles que le diabète, le cancer, l'obésité, les maladies cardiovasculaires sont en effet en partie déterminées par des habitudes alimentaires dès le plus jeune âge. Comment orienter notre alimentation pour les prévenir ? Pour répondre à cette question, rendez-vous le jeudi 22 février à l'Agora des Sciences à 18h30.
Corps de femmes sous influence, c'est le thème controversé et contemporain que vous proposera l'association CCSTI à l'Agora des Sciences le jeudi 8 mars à 18h30 avec l'intervention de Madame Annie Hubert, directrice de recherche CNRS. La réflexion portera sur la minceur, l'obésité et notamment les conséquences parfois dangereuses des régimes sur la santé.
A noter également que l'Agora vous invite hors les murs du 28 février au 7 mars avec des visites de la ferme aquacole bio du Frioul sur réservation. Enseignements sur le site de l'Agora, www.agora-science.org.
Un pendant plus politique avec une conférence de Jean-François Bayard, politologue français, directeur de recherche au CNRS, Centre d'études de recherche internationale, intitulé « Pour en finir avec le culturalisme ». Le culturalisme désignant notamment la construction historique et culturelle de l'identité, qui partant d'une symbolique d'appartenance, devient de nos jours un principe d'exclusion politique. Organisée avec l'association Échange et Diffusion des Savoirs, la conférence aura lieu le jeudi 22 février à l'hôtel du département, avenue Saint-Just, dans le 4e.
L'association Andromède vous propose trois conférences scientifiques à l'Observatoire de Marseille. Donc une première conférence sur les météorites et l'exploration du système solaire, organisée le vendredi 23 février 2007 à 20h30, par M. Pierre Rochette, professeur à l'Université Paul Cézanne, suivi d'une observation éventuellement du ciel si le temps le permet. A noter que l'entrée donc sera de 5 euros pour les adultes, de 3 pour les enfants.
Toujours à l'Observatoire, le lendemain, samedi 24 février à 20h30, ce sera au tour de Charles Frankel, géologue et écrivain, de proposer une conférence sur la disparition des dinosaures, un impact venu du ciel. Avec également une possible observation du ciel selon le temps.
Enfin, la troisième et dernière conférence Andromède tentera d'expliquer le phénomène des éclipses de lune. Rendez-vous le 3 mars 2007 à partir de 21h30 à l'Observatoire. La conférence donc sera suivie de l'observation de l'éclipse aux instruments entre 22h29 et 2h11. L'entrée sera libre. Enfin, pour finir sur la ville de Marseille, l'École des hautes études en sciences sociales propose un colloque et des dialogues interdisciplinaires autour de la mondialisation et la santé les 12, 13 et 14 mars à l'amphithéâtre de l'Institut de médecine tropicale des armées au Parc du Pharo. Ce colloque abordera trois thématiques correspondant aux trois journées, les espaces sanitaires de la mondialisation, les effets psychologiques et sociaux de la mondialisation et enfin, mondialisation et impact sur les systèmes de santé.
À présent, quelques conférences recensées dans la région.
Le Muséum d'Histoire Naturelle d'Aix vous présente jusqu'au 11 mars l'exposition Histoire d'espèces qui nous rappelle que les activités humaines ont provoqué au cours du siècle dernier la disparition d'espèces uniques et qu'elles hypothèquent toujours lourdement la survie de nombre d'entre elles à l'heure actuelle.
Dans le cadre des Mardis de l'Université, la bibliothèque Méjane d'Aix en Provence, vous pourrez assister le mardi 6 mars 2007 à 18h30 à une conférence tenue par Madame Béatrice Alessio-Lottier, chargée de recherche CNRS aussi, sur la mémoire qui est-elle, pourquoi nous fait-elle défaut, comment l'entretenir. Celle-ci se déroulera à la Cité du Livre, salle Armand Lunel.
À La Ciotat, le mardi 13 mars, l'association IRIS organise avec Madame Véronique Receveur-Bréchaud, biophysicienne et chargée de recherche au CNRS, une conférence sur la vie dans les milieux extrêmes. Rendez-vous au CUQ Saint-Jean à 20h30. C'était l'agenda, on vous remercie de votre écoute et on vous dit au mois prochain.
Salut!
Merci de nous avoir suivis pour cette émission. Rendez-vous le mardi 20 mars avec une discussion économique autour de la théorie des jeux et de la théorie de la décision. Au revoir.